terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Alors, je me tourne, comme promis, on va commencer avec Émilie. Émilie, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Merci, merci beaucoup d'être là, Émilie Guéret. Merci d'être là avec nous parce que je sais que dans combien de temps?
Moins d'une heure.
Dans une heure, vous êtes au cinéma du musée.
Oui.
Où il y a projection suivie d'une table ronde sur ce film-là. Voilà, l'audience. Alors l'audience, je vous le présente rapidement. Grosso modo, peut-être juste avant de présenter l'audience, je vais très vite dire deux, trois choses. 93 000 personnes ont demandé le droit d'asile au Canada en 2022. Le taux de refus, je dis bien le taux de refus, en première instance, est de 32%. Le taux de refus, alors quand on vous refuse en première instance, vous avez le droit de faire appel. Le taux de refus en appel est de 66%. Quand vous faites appel et que votre appel est rejeté, vous avez le droit de changer. Il y a des techniques pour ça. Et vous faites par exemple une demande, par exemple pour une demande humanitaire. Eh bien, figurez-vous que le taux de refus de demande humanitaire est de 70%. Ça vous fait d'un seul coup là beaucoup de chiffres. 32%, 66%, 70%. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que plus vous allez plus loin dans les demandes, plus le taux de refus a l'air d'augmenter. Mais ça, c'est ce qui se passe au Canada. Lorsqu'on demande un statut de réfugié. Alors, il y a ce film L'Audience, que j'ai eu la chance de voir, et qui est un film qui vous plonge vraiment dans un peu la mécanique, en fait, qui accompagne les demandeurs d'asile, mais particulièrement la mécanique de la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Mais dit comme ça, ça peut vous paraître abstrait. Ce qui est très intéressant, c'est que on a une famille qui est suivi par la caméra, et c'est leur histoire qu'on vit. C'est-à-dire que après avoir traversé de manière clandestine quand même 11 pays, ce qui n'est pas rien, après avoir traversé 11 pays, Peggy Kungandola, qui est co-réalisatrice de ce film-là, avec sa famille, son mari Simon et puis ses trois enfants, après avoir traversé ces pays-là, le film nous présente un peu l'audience qui va déterminer si oui ou non ils sont acceptés comme réfugiés au Canada. Donc, c'est simple, ils ont fui la répression politique en RDC, et donc la famille tente de se refaire une vie à Montréal. Là, au moment où je vous parle, l'hésitation, machin, c'est juste parce que Peggy Nkungandola vient de rentrer. Peggy, Mbote.
Mbote.
Bon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'étais en train de dire bonjour à Peggy en Lingala, parce que Peggy est qui est notre co-invité avec sa co-réalisatrice. Peggy, je l'ai dit, vient de la RDC. Je vous disais qu'ils ont traversé 11 pays. Ça s'appelle la route de la mort. Accrochez-vous parce que l'énumération est... J'écoutais ça en regardant le film, j'en revenais pas. Alors, le Brésil, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, Panama, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Mexique, États-Unis, Canada. Ça, c'est le parcours d'une famille pour aller rechercher une vie meilleure. Je suis très heureuse, je l'avais déjà dit à Émilie, très heureuse que Peggy, vous ayez accepté d'être là aujourd'hui. Je sais que dans quelques heures, prenez votre souffle, allez-y, prenez votre souffle. Dans quelques minutes, là, à une conférence, à une table ronde. Donc voilà, merci d'être là. Je vais commencer par Émilie. Émilie, d'où vous est venue l'idée de ce film-là?
Moi, je suis d'abord québécoise, francophone, et j'ai un lien très particulier avec le Brésil. C'est un pays où j'ai habité pendant 5 ans. Donc, en 2018, j'ai appris l'existence de cette route migratoire qui relie le Brésil au Canada, et notamment que des milliers de migrants parcourent cette route-là chaque année pour venir au Canada à travers, à l'époque, le chemin Roxham. Et donc, ça m'a beaucoup interpellée, cette inégalité du droit à la mobilité. Pourquoi est-ce que moi, j'ai le droit de m'acheter un billet d'avion maintenant sans visa pour aller au Brésil, facilement aller revenir, et pourquoi encore aujourd'hui en 2023 il y a des gens qui sont obligés de franchir des frontières clandestinement pour une chose aussi simple que chercher la sécurité. Ça devrait être un droit acquis pour tous et toutes. Donc ça, ça a été comme le point de départ de mon côté, et j'ai rencontré Peggy qui venait d'arriver. À Verdun en 2019. Okay. Donc, ça faisait 3 mois que Peggy et sa famille venaient d'arriver. Ils avaient déjà déposé leur demande d'asile. Et quand Peggy et moi, on s'est rencontrés, ça a été un coup de cœur immédiat. On s'est reconnus. On aime dire ça parce que c'était vraiment une rencontre très, très chaleureuse. C'est comme si on s'était toujours connus, en fait. Et donc, voilà, de cette rencontre-là a germé l'idée de faire un film ensemble. Et puis, la route, c'était le point de départ. Mais au fil de notre relation, le projet a évolué parce que pour Peggy et sa famille, ce qui s'en venait, c'était toute justement cette procédure de demande d'asile devant la Commission de l'immigration et du statut du réfugié. Mmh. Et pour eux, la route physique était, en tout cas, on le souhaite, terminée, mais le statut n'était pas garanti. Mmh. Et ça, je trouvais que c'était intéressant en tant que Canadienne, Québécoise, de documenter cette procédure-là pour voir à quel point on est accueillant et à quel point vraiment nos institutions sont en mesure d'accueillir des histoires comme ça, des parcours de vie. Et comme vous pourrez peut-être le voir dans le film, il y a beaucoup de failles à ce système-là.
Beaucoup, on va en parler.
C'est ça. Donc, même si on a tendance à encenser le Canada comme un pays d'accueil, comme vous l'avez si bien dit au début, il y a énormément de refus, et je ne veux pas divulgâcher le film, mais ce n'est pas si simple pour la famille de Peggy et Simon.
Tout à fait. Divulgâcher, c'est le terme que Malia utilise souvent, spoil, là, c'est ça, hein? C'est ça, c'est ce terme-là. Il faut voir Peggy devant nous. Elle a ce visage souriant, et pourtant c'est une histoire, on va le dire, assez triste, une histoire dramatique, mais elle a ce sourire-là qu'on voit aussi et qu'elle a constamment, cette espèce de... Pas visage impassible, mais serein, une forme de sérénité. Peggy, vous étiez journaliste en RDC, oui, avant de quitter la RDC. Je ne vais pas, comment Émilie a dit, divulgâcher le film. Il faut que les gens aillent voir le film pour comprendre pourquoi et comment vous partez. Oui, merci, rapprochez-vous du micro. Là, il y a une première question. Vous rencontrez Émilie et dit vous vous êtes rencontrés comme si vous connaissiez depuis, mais après avoir vécu ce que vous avez vécu, elle vous propose, je ne sais pas comment ça s'est passé, cette idée. Pourquoi vous lui dites oui, je suis prêt à documenter ma vie, ce que j'ai traversé avec ma famille, mon mari Simon, mes 3 enfants. Pourquoi vous lui dites oui?
C'est que quand je faisais cette route-là, on ne connaissait pas les réalités de la route. Quand on l'a découvert, c'était comme un choc pour nous. On était comme, qu'est-ce qu'on fait là, Simon? Waouh! On était désespérés. Mmh. Et on est parents, on a des enfants, donc on se disait, on va y arriver. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Je dois raconter cette histoire. Je dois vraiment le raconter. Et la façon dont j'avais de la raconter, c'était ça. Mais je ne savais pas comment le faire, mais je voulais le raconter. Mmh. Et quand on est arrivé, j'ai rencontré Emilia à travers une amie qu'on a en commun. Elle m'a parlé qu'elle voulait parler de la route. Et j'étais OK, je vais pouvoir t'aider, parce qu'elle voulait, elle voulait faire la route pour vivre. C'était quoi? Parce qu'elle était tellement impliquée que c'était choquant pour elle. Et j'ai envoyé... Quand Émilie disait qu'elle allait aller au Brésil, je lui ai donné des contacts de personnes que je connaissais au Brésil. Mais avec la pandémie et tout, elle est vite revenue et tout a changé, quoi. Pendant la pandémie, moi, j'ai commencé à parler de mon histoire avec un podcast que j'ai fait avec une amie. Mais on continuait toujours de discuter avec Émilie. Et l'élément vraiment déclencheur, c'était... que Il y avait des familles qui faisaient la route, mais qui sont morts avec leurs enfants en faisant la route. Et j'ai vraiment réalisé, quoi. J'ai appelé Émilie, j'étais vraiment, vraiment déboussolée, j'étais triste. Et j'ai dit oui. On va le faire. Mais ouais, c'était pas ça. Qu'on va parler de mon histoire. On pensait qu'on allait peut-être prendre d'autres migrants. Mais au fur et à mesure de nos discussions, ça a totalement changé. Quoi. Et
ça a donné
ce que ça donne aujourd'hui.
Ouais, ce qu'on voit dans l'audience. Vous parlez du Brésil. Vous partez de la RDC pour le Brésil. Oui. Et il y a quelque chose qui me frappe. C'est qu'on vous pose la question, pourquoi le Brésil? Et c'est votre réponse. Vous dites, c'est le premier visa qui s'est offert.
Oui.
En fait, je vous ai entendu, puis j'ai dit, c'est fou comment les gens peut-être ne réalisent pas à quel point on vit dans des pays où il y a des gens qui vivent dans des pays où il y a des situations tellement difficiles. Et on lance un peu comme ça, pour ceux qui connaissent la pêche, là, c'est comme des hameçons qu'on lance. Voilà. Et le premier qui prend, c'est ça. Donc, vous vous retrouvez au Brésil, puis vous arrivez ici. Je vois le temps filer, je sais que vous avez un engagement. On suit votre parcours. Vous avez votre garçon, l'aîné,
Adoration.
Allez voir ce film-là. Ce petit garçon, il est formidable. Il est adorable. Vous partagez tout avec lui.
Oui.
Tout votre parcours, toutes les décisions, il les comprend. Je trouve d'ailleurs que c'est le plus fort de la famille, mais bon, ça, c'est vous qui décidez. On voit votre parcours. On voit, moi, je connaissais pas la commission d'immigration, je connaissais pas, puis je vois le statut, tout ce qu'on vous demande. Puis il y a des questions, je vais essayer d'aller vite. Il y a une question qui est tombé, que quand j'ai entendu ça, on vous demande, mais pourquoi vous ne voulez pas repartir? Je crois que je la formule mal. Il vous pose la question. Vous avez répondu, mais quand il vous pose cette question, qu'est-ce qui vous passe par la tête?
J'étais comme, est-ce qu'il veut vraiment que je réponde là? Est-ce qu'il ne suit pas l'information? Il a lu notre histoire? J'étais comme, ok, je vais essayer de répondre calmement, du mieux que je peux, mais j'ai trouvé que c'était... Ça n'avait pas lieu d'être, quoi. Mais comme c'est un système où vous devez répondre et lui doit juste cocher, vous devez vraiment être... il doit vous placer dans des cases et c'était ça, quoi. Après, tu essayes de répondre du mieux que tu peux parce que lui, il doit cocher que tu as dit. Donc c'était ça, quoi.
Ce film-là, l'audience... Bon, Émilie partait, dit je veux découvrir la route, puis finalement vous les accompagnez. Peggy a une phrase dans le film, elle dit c'est très important, je pense, pour un demandeur d'asile d'être entouré. Et ce qu'on voit tout le long du film, oui, vous êtes entouré, mais à un moment donné, on a l'impression que, et vous êtes un peu la figure aujourd'hui de ces demandeurs d'asile, ben que vous n'êtes pas préparé en fait à la fameuse audience, parce que le film porte bien son nom. Vous n'êtes pas préparé, et je ne connais pas votre avocat, hein, je ne veux pas pointer, mais permettez-moi de dire ce que je ressentais quand j'ai vu le film, ce que j'ai perçu, c'est ok, je vais me lever le matin, je vais accompagner une famille, mais pas spécialement... impliqué, je ne veux pas mettre dans le trouble, hein, mais c'est un peu l'impression qu'on a, mais grosso modo, vous n'êtes pas préparé à ce qui vous attend.
Pas du tout. C'est que, bon, vous arrivez au bureau de l'avocat, comme on le montre clairement aussi, vous êtes 5 ou 6 familles à arriver, vous avez tous rendez-vous à 14 heures. Donc... combien de
puis
temps
signalons,
vous prend...
c'est pendant la pandémie.
Pendant la pandémie.
Vous parlez à un écran de télévision, ils sont de l'autre côté, les murs sont... Il n'y a même pas une peinture au mur, du moins un tableau, un truc, c'est tout froid.
C'est froid.
Oui. Vous avez peur, vous l'avez dit. Pendant
Oui. Et être préparé, là, on l'a vraiment pas été. Là, c'était quand même... Chacun essayait de faire de son mieux, quoi. Vivre le stress de la pandémie et... c'est ça. Donc moi, je ne pointerai pas du doigt l'avocat ou... Bon. Ça, c'est moi. Je cherche toujours à trouver.
C'est contagieux. Oui, Émilie.
J'aimerais ajouter quelque chose parce que je comprends la situation de Peggy. C'est délicat. C'est pas une affaire individuelle ou personnelle. Mm-hmm. C'est un problème systémique. Quand les demandeurs arrivent, ils ont très peu de temps et très peu de moyens pour trouver un représentant juridique adéquat. L'aide juridique au Québec pour les demandes d'asile, le tarif est très, très bas. C'est un des plus bas au Canada. Donc, il n'y a pas beaucoup d'avocats et d'avocates en immigration compétents qui acceptent des mandats d'aide juridique. Mmh. Donc, sinon, les demandeurs ont deux choix, soit d'aller en pratique privée avec un avocat qui va charger 5 à 6 000 $ en général pour accompagner une demande d'asile. Imaginez, vous arrivez au pays, là, ils n'ont pas de travail. Il y a certainement des gens au pays qui attendent aussi, qui leur envoient de l'argent. Mmh. C'est toute une réalité comme ça. Vous aviez des enfants, il faut trouver un logement. Donc, là-dedans, tu n'as pas de repère, tu ne connais pas, tu n'as même pas de réseau de contact encore. Comment tu vas trouver un avocat compétent qui va te faire un prix d'amis? Alors, il y a consultants privés en immigration. Il y en a qui sont extrêmement compétents. Il y en a qui le sont moins. Mm-hmm. Et comment savoir à l'avance sur qui on est tombé? Donc, on y va avec le bouche à oreille. Ah, j'ai entendu que telle personne fait ça dans la vie. Bon, il charge un peu moins cher qu'un avocat. C'est les circonstances, en fait, qui vous amènent à aller vers des personnes, vous ne les connaissez pas d'avance. Et ça, je pense que c'est un devoir d'État, en fait. Le Canada et le Québec, dans ce cas-là, parce que l'aide juridique, c'est juridiction provinciale, devrait tout de suite orienter, dès l'arrivée des demandeurs d'asile, vers des personnes compétentes et surtout mettre les moyens financiers à la disposition. Parce que, vraiment, ce n'est pas les seuls, Peggy Simon. Moi, j'assistais à beaucoup d'audiences avant de commencer le film et il y a énormément de... Il y a vraiment une variation énorme de la qualité de représentation juridique et ça influence la décision, au final, bien sûr.
Qu'est-ce que vous leur avez dit, Émilie, gardez le micro, qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils acceptent une caméra dans une commission, une audience? Moi je ne sais pas qu'on ne rentre pas souvent des caméras dans ce genre de choses, mais qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils acceptent ça? Parce qu'on les voit, hein, les commissaires, on voit leur face, on voit...
Il n'y avait pas eu de caméra dans cette salle d'audience-là depuis 20 ans. Les audiences se tiennent à huis clos. C'est pour protéger la sécurité des demandeurs, demandeuses, bien sûr. Ils racontent les épisodes les plus traumatiques de leur vie. Il ne faut pas que ça se sache à gauche, à droite. Ça pourrait se retourner contre eux. Mais dans ce cas-là, comme Peggy et moi, on faisait le film ensemble, on a formulé une lettre ensemble. C'est Peggy qui l'a signée. En son nom, elle a demandé elle-même au commissaire. Et tout le monde nous disait, vous n'allez jamais l'avoir. Mais dans la vie, tant qu'on ne s'est pas fait dire non, on ne prend pas le nom pour acquis. Donc, le commissaire a été vraiment ouvert là-dessus. C'est quelqu'un qui a un parcours comme journaliste avant d'être commissaire à la CISR. Donc, il a accepté parce que je pense qu'il comprenait l'importance de documenter ce mécanisme-là.
Et vous disiez qu'il faut protéger quand même les demandeurs et tout. Je signale que dans votre cas, Peggy, votre conjoint, Simon, il a filmé une scène d'atrocité commise par des soldats envers des populations civiles. Et ça a complètement fait basculer votre vie, d'où les dangers, au-delà de tout ce que tous les autres dangers qu'on connaît aujourd'hui, du moins au niveau de la RDC. Encore une fois, je ne veux pas divulgâcher, mais grosso modo, on sait que pour le, du moins de ce qu'on voit dans le film, votre demande, elle a été, refusée, et vous avez donc fait appel. Le film est dehors aujourd'hui. Mm-hmm. Quand on dit dehors, il est public. Mm-hmm. Vous n'avez pas encore le résultat final. Là, pour le moment, vous attendez. Là, le film, il est là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous, médias, on fait notre part, là. Mais qu'est-ce que vous attendez du public? Qu'est-ce que vous voulez que les citoyens comprennent? Ou qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ce film-là? Parce que je pense que c'est le moment, quand même, de le dire.
Justement. Parce que nous, on a fait comme toutes les procédures. Là, on a été déboutés. Et on a déjà déposé une demande humanitaire, là, une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Mmh. Et elle est normalement traitée dans 2 ans. Donc, on a 2 ans pour avoir la réponse. Mais entre-temps, on n'est pas protégé. Parce que les services frontaliers peuvent à tout moment envoyer une lettre pour nous dire que vous partez telle date. Donc c'est ça, c'est un peu stressant au quotidien. Mais à travers le film, nous avons lancé une lettre ouverte qui a été signée déjà par 10 500 citoyens canadiens. Donc là, je vous dis merci, c'est déjà quelque chose de très bien.
Et on ça, peut la trouver sur notre site web, l'audience.ca.
L'audience.ca,
il y a
oui,
un petit bouton
ça, oui.
Soutenir la famille et vous pouvez, et on vous encourage fortement à le faire, vous pouvez aller signer cette lettre.
Oui, la partager, la signer, en tout cas, ça va vraiment nous aider. Donc, c'est ça.
le film, bon, OK, ça fait deux jours qu'il est là dehors. Vous avez déjà les premières réactions. Comment réagissent ces gens?
Oups.
Le public qui... Ah oui, il y a avec beaucoup d'émotions.
Énormément. Ouais, ouais. Énormément d'émotions, énormément de soutien, énormément d'indignation. Les gens veulent agir. Exactement la question que vous avez posée, on se la fait poser à la fin du film. Donc, c'est pour ça qu'aussi sur le site web, il y a une section agir. On pointe vers différents organismes qui travaillent avec des demandeurs d'asile, des réfugiés, où les gens peuvent faire du bénévolat, faire des dons financiers. Il y a une marche qui se prépare à la mi-juin vers Roxham Road pour contester l'élargissement de l'entente sur les tiers pays sûrs, aussi connue sous le nom de fermeture du chemin Roxham. Donc, Peggy et moi allons certainement participer. Donc, tout ça est disponible sur notre site web et on vous encourage vraiment à le faire. Et on est content d'avoir lancé le site parce qu'il y a vraiment ces réactions-là sont très, très fortes.
Oui.
Je sais que vous devez y aller, mais je vous dis encore vraiment merci. Merci d'être passé. Je sais... Là, on est plutôt maintenant, on regarde le futur, on ne regarde plus le passé, on regarde vers l'avant. Votre optimisme, franchement, parce qu'il se dégage de ce film-là. Puis moi, votre garçon adoration, il est formidable. Bravo pour ce que vous avez fait. Nous, de notre côté, on va pousser au maximum. Allez voir le film. Si ça peut aider à changer les choses, allez-y. Et puis le site internet, Émilie, vous l'avez donné. Merci d'être passé. Et puis, juste comme ça, en passant, pour ceux qui pensent que le Brésil est un pays sûr, comme on le dit dans la commission de l'immigration, non. Depuis le début de cette émission, on en parle pas mal du Brésil. Et puis, c'est beau. Il y a le soleil, il y a la plage, mais il y a l'autre côté. Merci, merci d'être venu. Et puis, repartez avec toute notre énergie. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. On va rester au contact pour savoir comment les choses évoluent.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci. Merci à vous.
Belle journée.
Merci. Mon nom est Cyril Ekwala.
Elle est amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim.